VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Nathalie Barge avec vous au sommaire de cette édition du 4 octobre 2017. Togo, nouvelle manifestation à Lomé ce mercredi, à la veille de la marche de la colère. Guinée, marche de l'opposition à Conakry contre l'impunité. Aggravation de l'épidémie de peste à Madagascar qui a fait des victimes également dans la capitale. Donald Trump est à Las Vegas suite à la tuerie de dimanche ayant fait 59 morts et plus de 500 blessés. Espagne, la Commission européenne exhorte le gouvernement catalan à ne pas proclamer l'indépendance. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Des milliers de Togolais ont manifesté à Lomé et en province pour exiger des réformes constitutionnelles après des semaines de mobilisation contre le régime de Fornia Singbé. Jean Kissi, député du comité d'action pour le renouveau, l'un des partis organisateurs des manifs, on l'écoute.
Nous avertissons le gouvernement. Vous croyez qu'on doit croiser les bras lorsqu'on tue les nôtres? Mais ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que que ce soit les militaires, que ce soit les ministres qui cautionnent les gens qui vont tuer les gens, nous connaissons aussi leurs maisons, nous connaissons leurs enfants, on connaît leurs femmes, mais on continue de les côtoyer. Qu'ils ne pensent pas que notre patience n'a pas de limite ou que notre patience est une faiblesse. Il arrive d'un moment dans des pays, vous allez demander à pourquoi la population fait ci, elle fait ça, c'est souvent les conséquences de ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas capable de rester les bras croisés quand vous voyez votre voisine dont le mari est soldat et qui envoie les soldats tuer vos enfants, à côté d'elle, vous ne pouvez pas rester tranquille. Et il faut qu'ils prennent conscience dès aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire, quand on tue les nôtres, on violente les nôtres, là, vous voulez qu'on reste là, qu'on applaudisse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On tue, taisez-vous. On viole, taisez-vous. On tabasse, taisez-vous. On opprime, taisez-vous. Ah non, mais il y a une limite à tout. Il y aura un moment, ils ne peuvent plus arrêter ce qui va se passer. Et ça ne dépendra pas de nous.
C'était Jean Kissi, député du comité d'action pour le renouveau au Togo. En Guinée, marche de l'opposition contre l'impunité. Selon elle, des dizaines de personnes ont été tuées par balles sans qu'il y ait eu enquête pour situer les responsabilités. La marche a démarré en banlieue de Conakry jusqu'à Amdalaï. Notre correspondant Zakaria Camara était sur place.
L'opposition guinéenne veut exiger du gouvernement des poursuites contre des auteurs des tueries lors des manifestations qu'elle organise.
Il y a trop de victimes, puis ils s'envolent comme ça, à chaque fois ils s'envolent, il y a trop de victimes.
Plusieurs milliers d'opposants Alpha Condé sont sortis pour réclamer justice, mais pas seulement. Certains exigent la tenue des élections locales.
Bon, nous manifestons pour dénoncer les malgouvernances. En plus généralement, c'est pour qu'ils puissent faire les élections dans le bref délai.
Selon l'opposition guinéenne, plus de 80 personnes ont été tuées par balle lors des manifestations. Une situation que le chef de file de l'opposition juge inacceptable. La marche avait été interdite par le gouverneur de la ville de Conakry. Hier soir, le gouvernement l'a autorisé par la voix d'un des conseillers du président Condé. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Au Cameroun, une bombe artisanale a explosé dans la nuit de lundi à mardi sans faire de victimes à proximité des locaux de la police à Bamenda, chef-lieu du nord-ouest du pays, après la proclamation symbolique dimanche de l'indépendance des régions anglophones. 8 filles et femmes d'une même famille ont été tuées par balle mardi soir chez elles en Afrique du Sud et leur domicile incendié, indiquait la police. 6 des victimes étaient âgées de 3 à 18 ans. Elles se trouvaient dans 2 maisons voisines à Mbagwani. Des voisins ont entendu des coups de feu avant que les maisons soient brûlées, a déclaré un porte-parole de la police. 7 filles et femmes ont été tuées sur le coup et une 8e a succombé à ses blessures à l'hôpital. En Libye, au moins 4 personnes ont été tuées et 15 blessées dans un attentat suicide à Misrata. L'attaque qui a été revendiquée par le groupe État islamique s'est produite dans le complexe des tribunaux dans le centre de la ville sous contrôle de milices qui avaient aidé le gouvernement reconnu par la communauté internationale à chasser les djihadistes de Sirte l'an dernier. 13 des suspects interpellés lundi au Maroc lors d'une saisie record de cocaïne sont des Espagnols d'origine marocaine. Les deux cerveaux présumés des Néerlandais ont été incarcérés, a précisé Abdellak Kiam, directeur du Bureau central d'investigation judiciaire. Aggravation de l'épidémie de peste qui affecte Madagascar depuis plus d'un mois. Le bilan s'élève à 30 morts et 194 cas suspects selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. 9 personnes sont mortes dans la capitale, provoquant un mouvement de panique dans la population qui s'est ruée dans les pharmacies pour acheter des masques et des antibiotiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump est arrivé à Las Vegas 3 jours après la fusillade qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés, soit la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. L'avion présidentiel Air Force One s'est posé peu après-midi sur l'aéroport McCarran, accompagné de son épouse Melania. Monsieur Trump devait rencontrer des victimes et proches des victimes ainsi que les enquêteurs qui tentent toujours de déterminer les motivations du tueur, un retraité de 64 ans, inconnu des services de police. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a affirmé qu'il n'a jamais envisagé de démissionner lors d'une rare conférence de presse. Des journaux américains ont fait état de graves dissensions avec le président Donald Trump. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
4 000 à 5 000 Rohingyas franchissent quotidiennement la frontière pour trouver refuge au Bangladesh, dans l'un des pays les plus pauvres de la Terre. De nouvelles manœuvres militaires ont lieu dans l'état du Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie. Le flux de réfugiés a donc repris de plus belle, au profit de quelques passeurs sans scrupules. D'ailleurs, 39 personnes ont été arrêtées au Bangladesh. Ils faisaient payer 250 $ par tête le trajet en bateau, qui coûte environ 10 $ en temps normal. Selon des chiffres de l'ONU, 509 000 Rohingyas sont arrivés au Bangladesh depuis la fin août. Ils sont venus s'ajouter aux 300 000 réfugiés qui se trouvaient déjà dans des camps miséreux. Les Rohingyas, plus grande population apatride au monde, sont traités comme des étrangers en Birmanie, un pays bouddhiste à plus de 90%. Ils ne peuvent pas voyager ni se marier sans autorisation. Ils n'ont pas accès au marché du travail ni aux services publics comme les écoles et des hôpitaux.
C'était donc Eric Manirakidza pour les arrivées de réfugiés Rohingyas au Bangladesh qui ont continué ce mercredi, tout comme les opérations militaires en Birmanie, à savoir que Amnesty International accuse l'armée de pratiquer la politique de la terre brûlée. Je vous le disais tout à l'heure, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a affirmé qu'il n'a jamais envisagé de démissionner lors d'une rare conférence de presse. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Il ne m'est jamais venu à l'idée de partir. J'ai été nommé par le président et je suis là aussi longtemps que le président a le sentiment que je peux être utile pour atteindre ses objectifs, a déclaré Rex Tillerson au département d'État. La chaîne NBC News a rapporté que le chef de la diplomatie américaine avait traité Donald Trump de débile à la fin d'une réunion au Pentagone cet été et menacé de démissionner en raison des divergences avec le président. Interrogé sur le qualificatif de débile, Rex Tillerson a balayé d'un revers de main, disant que cela n'a pas d'autre objectif que de diviser. Dimanche, Donald Trump a écrit que négocier avec Pyongyang est une perte de temps. Rex Tillerson avait pourtant évoqué l'existence de canaux de communication pour sonder les intentions du régime nord-coréen quant à l'avenir de son programme nucléaire.
Le président américain Donald Trump s'est prononcé aujourd'hui pour une aide massive en faveur de Porto Rico, dévasté par l'ouragan Maria. Il envisage de demander au Congrès le déblocage de 29 milliards de dollars, dont 16 pour effacer une partie de la dette de ce territoire américain. Le leader nord-coréen Kim Jong-un est un homme politique rationnel, un fait que les États-Unis doivent bien prendre en compte dans leur rapport avec Pyongyang, a déclaré Yong Suk Lee, sous-directeur adjoint en charge de la Corée du Nord à la CIA. Plusieurs responsables politiques américains, y compris le président Donald Trump, ont dépeint Kim Jong-un comme quelqu'un de fou et irrationnel. Madrid et Barcelone doivent renouer le dialogue pour sortir d'une crise née d'un référendum illégal, a plaidé ce mercredi la Commission européenne lors d'un débat d'urgence au Parlement, tout en exhortant le gouvernement catalan à ne pas proclamer l'indépendance. Le vice-président de l'exécutif européen, Frans Timmermans, a rappelé que l'Union européenne considérait comme illégal le référendum d'autodétermination de dimanche, tout en déplorant les violences policières. Les dirigeants indépendantistes de Catalogne ont annoncé qu'ils allaient proclamer l'indépendance dans les prochains jours, malgré la mise en garde du roi Felipe VI qui les accuse de se montrer déloyaux. Les forces irakiennes sont entrées ce mercredi dans la ville de Hawija, ultime fief du groupe État islamique dans le nord du pays. Cette ville, située à 230 km au nord de Bagdad, est l'une des dernières tenues par les djihadistes en Irak qui ont été chassés de la majorité des territoires qu'ils avaient conquis en 2014. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Au Burkina Faso, 23 entreprises ont été exclues temporairement des marchés publics. Selon Tahirou Sanou, le secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics, certaines entreprises falsifient des documents et tentent parfois d'influencer les autorités contractantes par des moyens de la corruption ou de trafic d'influence pour obtenir les marchés. L'Union européenne a annoncé le déblocage de 264 millions de francs CFA pour venir en aide aux victimes des inondations au Niger, notamment pour les populations les plus touchées dans les régions de Dosso, Agadez et Tillabéri. 196 millions de francs CFA vont permettre à l'UNICEF de réhabiliter les points d'eau endommagés pour 35 000 personnes et 67 millions de francs CFA seront consacrés au fonds d'urgence pour les secours. Accord des fromageries Bel avec la Banque mondiale pour soutenir son réseau de 6 000 vendeurs de rue en développant ses programmes de santé, d'accès aux services bancaires et de formation professionnelle. Lancé en décembre 2013 au Vietnam, ce programme a depuis été déployé à Kinshasa, Abidjan, Dakar et Antananarivo. D'ici 2025, cette initiative devrait être étendue à 24 nouvelles villes, ce qui concernerait 80 000 vendeurs de rue.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le match Afrique du Sud-Sénégal est reprogrammé au 10 novembre.
Initialement prévu le 8 ou le 9 novembre, la rencontre Afrique du Sud-Sénégal de la deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde se déroulera finalement le 10 novembre à Polokwane en Afrique du Sud. On se souvient que ce match avait été disputé en novembre 2016 et s'était terminé par une victoire 2-1 des Bafana Bafana grâce à un pénalty imaginaire. Depuis, l'arbitre a été suspendu à vie. Et la FIFA a demandé de rejouer ce match. Le Burkina Faso a porté plainte et réclamation devant le tribunal arbitral du sport. Mais pour le moment, ce match doit être rejoué. On rappelle que dans ce groupe D, le Sénégal et le Cap-Vert sont premiers ex aequo avec 6 points. Juste derrière, le Sénégal a 5 points. Et donc évidemment, une victoire sénégalaise relancerait complètement ce groupe.
La cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique ce week-end, avec peut-être les premiers qualifiés africains pour le Mondial 2018.
5 places, aucun qualifié pour l'heure. Il y a un match en fin de semaine pour chaque groupe dans le groupe de la mort, dans le groupe B. L'Algérie et le Cameroun sont déjà éliminés. Le Nigeria peut se qualifier contre la Zambie, son seul poursuivant pour cette sixième phase d'un mondial de son histoire. Ce serait le second mondial d'affilée. La Tunisie, leader du groupe A devant la République démocratique du Congo, s'approche également d'une qualification en cas de victoire contre la Guinée. De même pour l'Égypte dans le groupe E, en ballottage favorable en cas de succès contre le Congo. En revanche, c'est plus serré, notamment dans le groupe C. La Côte d'Ivoire est première devant le Maroc et le Gabon. Tout le monde peut encore y croire.
Et la Syrie pourrait aussi se qualifier.
Pour cela, la Syrie devra remporter une double confrontation qui commence dès demain face à l'Australie en barrage. Puis, en cas de succès, il faudrait affronter une nation de la zone CONCACAF.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. À peine 11 réfugiés rwandais sur les 9200 enregistrés au Congo-Brazzaville se sont manifestés pour retourner au Rwanda. Tous les autres ne veulent pas rentrer. Ils redoutent toujours le pouvoir de Kigali. Voici un reportage de notre correspondante Gwelan Goussou.
Vous êtes sans ignorer qu'actuellement, on est en train de célébrer le génocide pour la 23e fois. Et c'est le génocide des Tutsis. À quel moment est-ce qu'on va célébrer le génocide des Hutus? Et donc, les réfugiés ont peur d'aller dans un pays où ils n'ont pas le droit.
Ces propos d'un jeune réfugié rwandais résument l'angoisse et le dépit que suscite au niveau des réfugiés rwandais le fait d'entendre qu'ils perdraient à partir du 31 décembre 2017 leur statut. Le HCR l'a confirmé et y travaille même déjà. Mohamed Nafian est le chef de bureau du HCR à Bétou, au nord du Congo, où on compte quelques 1979 réfugiés rwandais.
Cette année surtout, nous sommes très sûrs, il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugiés, soit le rapatriement que le HCR pourrait faciliter.
À Brazzaville, les réfugiés vivent cela comme un harcèlement. L'étudiant Patrick Mataboro n'en veut même pas en entendre parler.
Vous voyez que les réfugiés se trouvent dans des situations inconfortables à cause de ce qui se trouve, de ce que le Rwanda est en train de faire. Donc, qu'il affiche la paix aux réfugiés rwandais, qu'il laisse les réfugiés rwandais vivre en beauté, dans leur sécurité. Donc, c'est ça ce qu'on demande.
Marie-Claire Niramaoro revient sur le calvaire vécu pendant la fuite du génocide en 1996.
Nous avons peur de retourner chez nous parce que le pays que nous avons fui n'a toujours pas organisé de dialogue. Pendant notre fuite, nous avons vu dans les forêts de RDC comment les réfugiés rwandais, les Hutus en majorité, ont été pourchassés et massacrés par le FPR. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, ceux-là qui nous ont tués nous demandent aujourd'hui de rentrer au pays.
Luamba Moke, président de la DUC, une ONG locale, appelle le Congo et le Rwanda à abandonner ce projet. Dépassé un mois, dit-il, il saisira la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
À la fin de l'année 2017 et au début de 2018, que ça soit effectivement des personnes qui vont devenir des migrants clandestins et en leur qualité de migrants clandestins, ils vont être expulsés. Voilà, nous craignons cela. Et en ce moment, nous allons saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour que la Commission puisse prendre autorité sur cette question-là.
Nguila Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Abdourahman Dia. Je vous donne rendez-vous à 18h, temps universel, dans votre émission À votre avis. Ce soir, on va discuter des mandats présidentiels et la limite d'âge. Un projet de loi modifiant la constitution ougandaise sur la suppression de la limite d'âge du président a été déposé mardi au Parlement. La modification de la constitution permettrait à Yoweri Museveni, déjà au pouvoir depuis plus de 30 ans, de briguer un cinquième mandat en 2021. Faut-il limiter l'âge des candidats à la présidence? Faut-il aussi imposer une limite dans le nombre de mandats? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Mobutu Sese Seko, l'ancien dirigeant de ce qui était à l'époque le Zaïre est mort il y a 20 ans au Maroc. Aujourd'hui, rien à Kinshasa ne rappelle à première vue l'héritage de celui qui a régné d'une main de fer sur le pays pendant 37 ans. Des Mobutistes tentent cependant de faire renaître son parti et réclament sa réhabilitation. Abdourahmane Dia les a rencontrés à Kinshasa. Voici son reportage.
Aucune rue ne porte son nom et il n'y a aucune statue pour l'honorer. Mobutu Sese Seko, mort loin de chez lui, après avoir fui l'arrivée des troupes de Laurent Désiré Kabila, a encore des partisans à Kinshasa. Lando Katambongo est le cousin et ex-secrétaire privé de Mobutu.
Je crois après tout ce que le président a fait dans ce pays, ça mérite quand même une réhabilitation. Les gens, peut-être qu'ils ont l'esprit obtus pour ne pas se souvenir du président Mobutu. Si on ne reconnaît pas ce qu'il avait fait, mais il y a un pan quand même de la société congolaise maintenant, se reconnaissant en lui. C'est quand même le fils de ce pays, c'était pas un étranger. Il a lutté pour l'unité de ce pays. On doit quand même le lui reconnaître. L'écriture de l'histoire de ce pays doit rester intacte. Vous voyez à la télé par exemple, quand tu parles de l'histoire de ce pays, on met certaines photos, sauf la photo de Mobutu, comme si lui, ce monsieur-là, ne faisait pas l'histoire de ce pays.
Et parmi ceux qui parlent avec nostalgie de l'époque Mobutu, il y a son fils adoptif, Alain Dilongo Mobutu.
Je ne sais pas si lorsque moi aujourd'hui ou peut-être d'autres se présentent sur la nationalité congolaise, je ne sais pas si ça a la même connotation, si ça a encore la même valeur. Regardez, des pays où nous allions avec fierté aujourd'hui nous rejettent. Des pays que nous contrôlions, dont nous avions une grande ascendance aujourd'hui nous dominent. Je me pose la question.
Et pour lui, réclamer l'héritage de Mobutu passe d'abord par la relance du MPR, l'ancien parti unique.
Nous avons pris nos responsabilités pour réhabiliter ce parti-là et réanimer la flamme du MPR tel que notre papa, tel que le fondateur de ce parti l'avait animé pendant 32 ans.
Et la question du retour au pays de la dépouille de l'ancien chef d'État est aussi dans les esprits. Xavier Lukelo Longo était un de ses plus proches collaborateurs.
Le mort aujourd'hui, même si ton frère a un problème, on nous dit de pardonner. C'est le pardon d'abord. Quand il n'y a pas le pardon, on ne peut pas rien construire. Et le chef, mon papa, il était pour le pardon. Il a beaucoup aimé ce pays et il a fait beaucoup pour ce pays. Et il ne voyait pas mon Congo, mon Luba, mon Ngala. D'ailleurs, je vous dis, même nous qui les servaient, il y avait des Katangais, il y avait des Kassaïens. 90% des travailleurs, c'était Bandundu, Bakongo.
Abdourahman Dia, de retour de Kinshasa pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les ministres des 14 pays ayant en partage le franc CFA se réunissent du 4 au 5 octobre en France autour du ministre français de l'économie dans le cadre de la rencontre annuelle qui précède les assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Diminution de la masse monétaire en circulation dans certains États de la CEMAC, baisse de plus de la moitié des réserves de change de cet espace économique, hausse de l'endettement, érosion des avoirs extérieurs nets des pays. Eh bien voilà, Idriss Fall a recueilli l'avis de l'économiste sénégalais El Hadji Omar Ndao.
Le débat sur le CFA, les profanes entre guillemets, ils donnent leur position, c'est tout à fait légal. Les politiques donnent leur position, mais je pense qu'il ferait mieux qu'il y ait un débat autour des politiques, des spécialistes, qu'ils puissent s'asseoir et en discuter dans les profondeurs. Le CFA ne nous arrange pas. Pour un pays qui veut émerger, l'arrimage du CFA à l'euro est de 100%. Ça n'existe dans aucune économie au monde. Pour qu'une monnaie soit valable et maniable avec une bonne politique monétaire, il faudra au moins qu'il y ait 50% d'arrimage, 50% de la possibilité de fluctuer. Mais malheureusement pour le CFA, si on veut booster par exemple nos exportations, on n'a pas de possibilité de réduire notre valeur. Donc le CFA suit aveuglément l'euro. C'est pour cela qu'on dit qu'en réalité il n'y a pas de politique monétaire pour la zone CFA. Mais on ne peut pas sortir du CFA pour un micro pays comme le Sénégal avec 15 millions d'habitants. On doit sortir du CFA en groupe comme la zone UEMOA, la zone CEDEAO. Pour espérer avoir une économie qui suit la valeur monétaire suivant l'économie, il faut au moins 100 millions d'habitants.
Mais qu'est-ce qu'on va faire du Nigeria et du Ghana qui ont déjà leur propre monnaie?
Mais ces pays qui ont leur propre monnaie, par exemple le cas de l'Union européenne, l'Allemagne avait le Deutsche Mark, la France le franc français, la Suisse ainsi de suite, et d'autres pays. Mais ils se sont arrangés en créant une monnaie, mais on va prendre une monnaie comme une monnaie internationale, telle que le dollar, l'euro, ou bien une autre monnaie, le dollar canadien, le dollar australien, ainsi de suite, ou bien le yuan chinois. Et dans ce cas, les autres pays comme la Gambie, le Ghana, le Nigeria, on va chercher une monnaie commune avec un taux de change par rapport à une autre monnaie pour échanger la valeur de la monnaie locale par rapport à la nouvelle monnaie créée.
Donc on peut dire pour conclure que ce n'est pas demain la veille qu'on verra une monnaie unique en Afrique de l'Ouest.
En toute sincérité, politiquement, on n'est pas encore prêt. Parce que c'est ce qui portait le débat au sein de l'Union africaine. Il y avait Kadhafi, le feu Kadhafi. Mais du point de vue économique, il était le porte-drapeau, en quelque sorte, de l'Union africaine. En voulant accélérer le processus de création d'une monnaie commune. Après lui, on a entendu le cas de Déby. En 2015, il en avait parlé, mais depuis lors, qu'il n'est plus dans le débat. Mais je sais que quand on doit créer une monnaie, ça doit être au moins une monnaie de l'UMOA ou bien de la CEDEAO, mais pas une monnaie pour le Sénégal ou bien pour le Mali ou bien pour uniquement le Nigeria.
C'était l'économiste sénégalais El Hadji Omar Ndao.
Et Kia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation au Cameroun. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Elle exige le retour au fédéralisme sans obtenir satisfaction du gouvernement. Faut-il proclamer l'indépendance des régions anglophones? Comment réconcilier les différentes régions? Comment sortir de cette crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est jeudi à 19h en temps universel.
Madrid et Barcelone continuent à durcir le ton depuis le référendum sur l'indépendance de la Catalogne, interdit dimanche dernier. Le président de la communauté autonome de Catalogne, Carles Puigdemont, veut déclarer l'indépendance dans les prochains jours. Pour analyse, Eric Maniraguiza a joint à Paris Jean-Jacques Kurliansky, qui est chercheur à l'IRIS sur la péninsule ibérique et l'Amérique latine.
Non, c'est un bras de fer perdu d'avance. Donc effectivement, le tribunal constitutionnel espagnol a considéré que l'organisation d'un référendum sur une partie du territoire espagnol sans l'accord des autorités nationales espagnoles était inconstitutionnel et illégal. Mais la logique qui est suivie par les autorités locales, donc du gouvernement catalan, est celle d'aller jusqu'au bout de la dynamique vers l'indépendance qu'ils ont engagée.
Le roi Felipe VI s'est exprimé avec une grande fermeté. Apparemment, il n'a pas été entendu. Est-ce que le roi a un pouvoir réel en Espagne?
Non, il a les mêmes pouvoirs que le roi de Hollande, de Suède ou la reine d'Angleterre. Il est le symbole de l'unité nationale et il exprime le point de vue du gouvernement du moment. En Espagne, il y a eu une exception le 23 février 1981 quand des militaires ont pris en otage les députés et le gouvernement. Le roi, qui était le père du roi actuel, donc Juan Carlos, s'était trouvé en situation d'avoir un rôle effectivement politique important. Alors c'est peut-être en souvenir de cette image positive vis-à-vis de la démocratie qu'a gagné le roi Juan Carlos à ce moment-là, que le gouvernement espagnol a souhaité que son fils, Felipe VI, s'exprime de façon solennelle à la télévision pour solenniser la prise de position qui est confirmée dans la ligne politique qui est celle du gouvernement de Madrid, qui est de considérer qu'il est prioritaire de faire respecter la loi, de faire respecter la Constitution, s'impose à tous, y compris aux autorités élues de Catalogne.
La justice espagnole a lancé des poursuites contre le chef de la police catalane et des responsables indépendantistes. Est-ce que c'est une action qui peut régler ce contentieux ou ça risque de empirer la situation?
En règle générale, il faut passer par la case dialogue. La particularité de cette crise catalane est qu'elle s'éternise depuis 2010, ce qui est une date butoir, une date symbolique forte du début de cette crise. C'est la date à laquelle le Parti populaire, ayant saisi le tribunal constitutionnel, a fait abolir l'essentiel d'un statut d'autonomie qui donnait satisfaction à la majorité des Catalans. Donc à partir partir de ce moment-là, le gouvernement populaire arrivé au pouvoir à Madrid avait l'obligation de faire une proposition alternative, il ne l'a jamais faite. Et donc le dossier a dérivé, a pourri, et la société catalane comme la société espagnole se sont polarisées.
C'était Jean-Jacques Kurliansky, chercheur sur les questions ibériques à l'IRIS. Et c'est la fin de cette émission. Je vous laisse en compagnie de Henri Francisque pour l'actualité du jour. Très bonne soirée.